Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue donc au Casino pour cette journée spéciale consacrée au logement sur l'île-Dieu. Alors que vous soyez propriétaire, locataire, résident principal ou secondaire, ou simplement intéressé justement par tous ces enjeux hein, du logement, cette journée est donc l'occasion d'aborder différents problèmes liés au logement, d'explorer toutes les pistes de solutions, présenter un peu différents organismes qui peuvent vous aider, et puis passer en revue les réglementations, les dernières évolutions en matière de logement et d'immobilier, et puis bien sûr les projets de la mairie hein, concernant le logement. On en parlera dans la troisième table ronde. Et on va essayer d'offrir des réponses également à vos questions que vous pourrez poser tout au long de ces tables rondes. Alors pendant cette journée, on va plonger dans trois thèmes un peu essentiels donc sur le logement. La préservation du patrimoine familial, on va en parler dans quelques minutes. Les défis de la résidence permanente à l'île-Dieu, ce sera de 18h30 à 20h. Et puis les actions communales pour améliorer l'accès donc au logement sur l'île, ce sera de 20h30 à 22h. Voilà. Alors avec moi, Emmanuel Maillard, qui est chargé du développement économique donc à la mairie de l'Île-Dieu. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Qui va donc ouvrir officiellement, j'ai envie de dire, cette journée du logement.
Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Il y a 2 ans, je crois, 3 ans, on avait fait une semaine du logement où ça avait été plus sur le diagnostic, où tout le monde avait pris de face ce problème. Depuis, on a embauché une chargée de mission à la commune. On a créé une commission Habitat avec des gens de la majorité, des gens de l'opposition et des associations. Donc on s'est mis au travail. Donc là, on a voulu faire une journée, non pas sur le diagnostic, parce que ça y est, je pense qu'on a tous compris ce qui se passait, mais sur ce qu'on a réussi à faire depuis cette semaine du logement, ce qu'on a réussi à obtenir, ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on voudrait mettre en place après. Donc ça, c'est plutôt ce soir. Et on a fait 2 tables thématiques. Il y en a une à 18h30, c'est sur la location à l'année, parce qu'il y a un vrai souci sur le parc locatif. Et on a eu cette idée en se disant, un des problèmes qu'on voit souvent revenir, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'en gros, le prix du foncier et du bâti étant tellement élevé que d'un côté, ceux qui ont une maison, ils se disent qu'ils sont assis sur une vraie richesse, mais d'un autre côté, au moment de le donner à leurs enfants ou de le transmettre, vous avez des enfants qui n'ont plus le choix que de revendre ce dont ils héritent et on le perd pour de la résidence principale. Donc voilà pourquoi on a fait ce thème-là et on a fait appel à un vrai professionnel qui va vous expliquer ce que vous pouvez faire sur de la transmission. Merci en tout cas.
Voilà, on va commencer donc avec ce thème de la préservation du patrimoine familial. Comment assurer la transmission de nos biens, de notre héritage aux générations futures, les enfants, les petits-enfants. Si je vous parle de legs, de donations, de succession, ça, on sait peut-être pas forcément toujours qu'est-ce que ça représente et ce sera l'occasion justement d'en parler avec François Leu, aujourd'hui notre invité expert en gestion de patrimoine chez Altea Patrimoine. Bonjour François.
Bonjour.
Donc, je vous laisse présenter donc toutes les questions autour de la transmission du patrimoine.
Merci.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonjour à tous. Effectivement, vous avez raison. N'hésitez pas s'il y a des questions. On fera un temps d'échange à la fin, mais ce sont des sujets qui sont quand même relativement complexes. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible en matière de compréhension, mais faire du simple avec des choses qui sont compliquées, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me couper. À un moment donné, si je pars un peu dans les tours, si vous comprenez pas tout ce que je vous raconte, vous me dites, on redescend d'un cran, n'hésitez pas. C'est surtout avec plaisir que j'essaierai d'être le plus clair possible. Donc, effectivement, la problématique, et ça, c'est valable pour tous les littoraux maritimes, l'Île-Dieu, mais comme tous les littoraux maritimes, et puis un certain nombre d'autres secteurs qui sont très prisés, c'est que, comme il a été dit il y a quelques minutes, l'augmentation du prix du foncier et l'augmentation du bâti, c'est vivre sur une certaine richesse, mais la problématique, c'est effectivement de le transmettre derrière. Le transmettre, le conserver en famille, et même quand on veut le conserver, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir le conserver? Parce que les enfants n'ont pas forcément les moyens de payer les droits. Ça veut dire qu'il faut vendre des biens, il faut vendre du foncier pour conserver les biens. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en œuvre pour, à défaut de passer à côté de droits à payer, au moins en limiter la portée. Donc c'est un petit peu autour de ça qu'on va réfléchir. J'ai essayé de sortir 2 exemples qui se rapprocheraient un petit peu de différentes situations qu'on peut trouver sur l'île, c'est-à-dire un couple un peu âgé, qui a, par le fait des héritages, par le fait de son activité professionnelle, accumulé plusieurs biens immobiliers. Et puis, l'exemple d'un couple qui est un peu plus jeune, qui est en fin de remboursement de son crédit, qui lui a déjà sa résidence principale, mais sa résidence principale, elle coûte déjà relativement cher, parce que le bien, il a augmenté de manière significative ces dernières années. Donc, on verra si on a le temps d'en parler, parce qu'il y a une autre problématique, c'est évidemment l'impôt sur la fortune immobilière, l'ex-ISF, qui peut venir se greffer là-dessus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit, dans un premier temps, la problématique principale, surtout sur la journée, sur la soirée qui est prévue là. S'il y a des questions sur le sujet, on pourra toujours échanger, pas de problème. Mais je pense que d'abord et avant tout, il faut se poser la question de la conservation et du patrimoine. D'accord ? Donc, évidemment, on est dans une conjoncture qui est immobilière qui est exceptionnelle. L'Île-Dieu, c'est vraiment un concentré de cette conjoncture exceptionnelle, mais il faut bien voir que d'une manière générale, depuis 25 ans, l'immobilier en France a connu une trajectoire vraiment exponentielle en matière de prix, et les prix de l'immobilier sont devenus totalement décorrélés du revenu disponible des ménages. Donc, sur le continent comme sur l'île, c'est compliqué d'accéder à la propriété. Évidemment, ici, c'est vraiment exacerbé parce que c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et le salaire et les revenus disponibles du ménage ne sont pas nécessairement à due proportion du prix de l'immobilier. Donc, c'est vrai que les littoraux touristiques sont particulièrement concernés. Le marché se grippe depuis maintenant un an et demi pour les raisons que vous connaissez. Les taux d'intérêt ont augmenté. Alors, est-ce que les taux d'intérêt sont élevés ? Ça, c'est un autre débat. Quand on emprunte aujourd'hui à 4% ou 4,5% sur 20 ans, est-ce que ce sont des taux élevés ? Ou est-ce que lorsque l'on empruntait à 1% sur 20 ans il y a encore un an et demi, est-ce que la problématique, elle n'était pas quand on empruntait à 1% sur 20 ans ou sur 25 ans il y a un an et demi ? Donc ça a évidemment été un facteur qui a énormément alimenté la spirale des prix de l'immobilier. L'allongement de la durée des crédits aussi. Les banques prêtaient il y a 20 ans sur 15 ans. Aujourd'hui, elles prêtent sur 25, elles ont prêté sur 30 ans. Alors aujourd'hui, il y a des règles nouvelles qui font qu'elles prêtent sur des durées un peu plus courtes, 25 ans. Mais n'empêche que tout ça, ça a été quand même quelque chose qui a alimenté, qui a mis du charbon dans la machine, qui a fait que les prix de l'immobilier ont énormément évolué. Alors en plus, quand vous mettez sur un secteur ou des secteurs comme les littoraux maritimes et sur l'Île-Dieu en particulier, où vous avez des gens qui ont accès à un crédit plus facile, qui coûte moins cher, qui fait augmenter le prix de l'immobilier, et en plus des gens qui arrivent de l'extérieur avec des capitaux ou des investisseurs qui, de toute façon, ne recourent pas au crédit parce qu'ils ont les moyens de payer cash, ben vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour un marché qui explose derrière. Donc, marché se grippe d'une manière générale. Je ne sais pas s'il se grippe vraiment sur l'Île-Dieu. Je ne suis pas suffisamment expert du secteur. Je n'ai pas la certitude que ça se grippe comme sur le continent. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça laisse voir. Donc, évidemment, ben les conséquences derrière, c'est comment je transmets et comment je conserve le partage. Bah oui, parce que le problème qui se pose, c'est que si j'ai 3 enfants et un bien immobilier, derrière, je vais peut-être avoir quelques difficultés à avoir l'équivalent en financier pour donner à des enfants qui ne voudraient pas de l'immobilier. Bah, le partage devient relativement compliqué à faire. Et puis, accessoirement, éventuellement, en matière d'impôt sur la fortune, parce que même si on n'avait rien fait de particulier pour y être, bah, à un moment donné, vu la valeur des biens immobiliers, on peut y accéder, enfin, en tout cas tomber dans l'IFI plus vite qu'on ne le voudrait. Alors, ça, on n'en parlera pas. Peut-être que ça sera réabordé ultérieurement. C'est vrai qu'il y a quelques réformes qui sont en cours, dont une très récente qui a été un petit peu avortée l'année dernière, qui est à nouveau remise sur le tapis depuis le début d'année, avec des votes très récents à l'Assemblée nationale lundi soir. Une réforme sur la fiscalité immobilière, notamment la fiscalité de la location en meublé touristique. Alors, c'est pas le sujet ici, mais bon, ça fait partie quand même du contexte. Peut-être, peut-on rêver, en tout cas pour ceux qui voudraient limiter le prix de l'immobilier, peut-être peut-on à un moment donné envisager que dans les mois à venir ou les années à venir, la fiscalité de la location en meublé touristique soit beaucoup moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas, les textes tels qu'ils sont commencé à être présentés et tels qu'ils ont commencé à être votés à l'Assemblée nationale lundi soir laissent à penser que la fête est finie. Voilà, vraiment, j'utilise le terme de manière très caricaturale parce que si les textes vont jusqu'au bout, il y a vraiment une réforme d'ampleur, aussi bien d'un point de vue fiscal que d'un point de vue administratif. Après, maintenant, on n'en est qu'à l'Assemblée nationale, il faut que ça passe au Sénat, il faut que ça passe en commission mixte paritaire, il y a du boulot encore. Mais il n'est pas impossible qu'au cours de l'année 2024, vous entendiez parler de ce sujet-là, particulièrement sur des secteurs comme les vôtres, et peut-être que certains d'entre vous sont concernés, parce qu'on peut très bien faire de la location en meublé touristique en habitant sur l'île, c'est pas un sujet, c'est pas que le problème des investisseurs externes. Mais il y a vraiment, a priori, quand même des choses qui sont dans les cartons. J'arrête là-dessus. Je voulais juste en toucher deux mots parce que dans la réflexion globale, c'est vrai que peut-être, je dis bien peut-être, hein, vraiment conditionnel, peut-être que c'est des possibilités pour limiter l'impact de l'évolution de l'immobilier dans les années à venir. C'est de passer à un moment donné par être beaucoup moins souple en matière de fiscalité pour les investisseurs sur la location touristique. Donc, mais bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira.
Okay.
Bon, j'arrête là-dessus. Je me reconcentre plutôt sur la transmission puisque c'était un petit peu le sujet. C'est plutôt le sujet de ce qu'on voulait aborder. Alors, souvent en matière de transmission et à juste titre, les gens s'interrogent beaucoup sur le fiscal, c'est-à-dire le combien je vais payer. Bah, évidemment, c'est important. Mais le fiscal, c'est une chose. Moi, je m'intéresse toujours d'abord au civil. Le civil, c'est quoi? C'est qui héritera? Avant de savoir combien je vais payer, ça serait déjà bien de savoir de ce que je vais recevoir. Or, moi, il est fondamentalement, je préfère payer sur quelque chose que je reçois plutôt que ne pas payer sur quelque chose que je n'ai pas. Hein, il y a toujours une solution pour pas payer, c'est de recevoir. Donc, il faut d'abord toujours se poser les questions de qui héritera la place du conjoint. Comment il va gérer les biens immobiliers au décès de monsieur, si c'est madame qui reste? Est-ce que c'est les enfants qui reçoivent? Il faut toujours d'abord se poser, me semble-t-il, ces questions-là en priorité. Et ensuite, on regarde le fiscal. Et le fiscal, à un moment donné, on essaye de trouver des solutions pour faire en sorte d'en limiter la portée. Mais n'empêche que faut toujours bien se remettre les choses dans l'ordre. C'est d'abord le civil qui hérite et ensuite, on regarde qui paye. D'accord? Parce que quand on fait les choses en sens inverse, bien souvent, quand on est guidé que par la fiscalité, on fait aussi parfois les mauvais choix. Certains choix fiscaux sur le papier peuvent être intéressants parce qu'on va payer moins, sauf qu'on se rend compte derrière qu'il y a des problématiques, parce que les partages ne sont pas faits, parce que peut-être qu'un des enfants qui va hériter d'un bien ne le voulait pas ou ne l'a pas exprimé si clairement que ça. Donc posons-nous d'abord toujours ces questions-là en priorité et ensuite évidemment le fiscal arrive toujours, parce qu'à un moment donné c'est combien je paye à l'arrivée quand même, hein, ça je suis bien d'accord, qu'à un moment donné c'est quand même toujours les questions qui se posent. Donc le qui héritera pour moi il est fondamental. Et se poser la question quels vont être les droits de propriété des différents héritiers, parce que avoir de l'usufruit ou de la nue propriété, c'est pas la même chose. Mais on va revenir sur ces notions-là. La place du conjoint survivant, oui, parce qu'il y a beaucoup aussi un petit peu de légende urbaine derrière tout ça. Est-ce qu'un conjoint survivant, ça peut être mis dehors par les enfants au décès du premier qui part? Non, ça peut pas. Le conjoint survivant, il peut pas être mis dehors. Depuis une loi portant réforme sur le conjoint survivant de 2001. La résidence principale est quelque chose qui est particulièrement bien protégé par le conjoint survivant. Je parle bien du conjoint. Donc, quand je dis conjoint, je sous-entends couple marié. D'accord? Sinon, je parle d'un partenaire, je parle d'un concubin. Ça va pas être la même musique sur des partenaires pacsés, ça va pas être la même musique sur des concubins. Mais le conjoint marié, aujourd'hui, est plutôt très bien protégé d'une manière générale sur la résidence principale. Sur la résidence principale. C'est normal, c'est le foyer familial, on a voulu le protéger au maximum et c'est ce que nous dit la loi aujourd'hui. Donc, évidemment, j'anticipais un tout petit peu par rapport à ce qui est écrit ici derrière moi. C'est pas la même chose pour un couple pacsé et c'est évidemment encore moins la même chose quand on vit en concubinage. Le concubinage, c'est rien au regard de la loi. C'est deux lignes dans le code civil. Le concubinage, c'est le fait de vivre ensemble. Point, terminé. Derrière, c'est quoi les droits? Il n'y en a pas. Donc, il y a évidemment des questions qui nécessitent d'être posées en la matière. Notamment, alors on pourra penser plutôt à des jeunes acquéreurs, des jeunes emprunteurs. Comment on fait s'il y en a un des deux qui part? Bon, ok, peut-être que le prêt, il est remboursé à la banque parce qu'on a pris les assurances pour que le prêt soit remboursé à la banque. Mais en même temps, si le prêt, il est remboursé à la banque, mais que je ne suis pas, moi, pas le concubin survivant, si moi, j'ai pas la maison, le prêt, il est remboursé, mais je suis pas propriétaire de la maison. Donc, je suis pas beaucoup plus avancé. Donc, c'est toujours la même chose. Avant de réfléchir sur le combien je paierai, toujours se réfléchir en priorité sur quels seront mes droits à ce moment-là. D'accord? Des questions qui peuvent aussi se poser, c'est un bien immobilier dans le patrimoine familial appartient à monsieur ou à madame suite à une succession, suite à une donation ou parce que je l'ai acheté avant le mariage. Eh bien, quels sont les droits du conjoint survivant sur ces biens-là? Si monsieur a hérité d'un bien immobilier, on va le voir, j'ai pris quelques exemples, mais si monsieur a hérité d'un bien immobilier, ça a beau être un bien qui lui est propre, est-ce que madame aura des droits sur ce bien-là au décès de monsieur? La réponse, elle est plutôt oui, d'une manière générale, alors qu'on a toujours tendance à penser que les biens qui appartiennent à l'un des deux, ce bien va aux enfants. Oui, il ira aux enfants, mais il ira aux enfants après, en général, après le décès du conjoint survivant. D'accord? Donc, on va, une fois de plus, j'ai fait quelques petits cas pratiques pour essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Mais voilà le genre de questions qu'on doit se poser. Et c'est aussi derrière arrivent toutes les notions de testament. Parce que il y a des règles qui s'imposent. Il y a des règles d'ordre légal qui s'imposent. Les enfants sont des héritiers protégés. Le conjoint est un héritier protégé. Est-ce que je peux essayer de contourner un peu ces règles-là? Oui, il y a des limites, mais on peut les contourner. Les testaments sont une solution de les contourner. Les donations, j'en parle pas ici, mais les donations sont aussi une possibilité. On a des limites, on ne fait pas ce que l'on veut. Mais malgré tout, il y a des possibilités de pouvoir changer un tout petit peu le fléchage de la transmission de mon patrimoine. Famille recomposée. Et aujourd'hui, les familles recomposées, c'est quand même des sujets qui arrivent assez fréquemment sur la table. Dans le cadre d'une deuxième union, monsieur ou madame avait des enfants d'un premier lit. Qu'est-ce qui se passe au décès de l'un ou de l'autre? Quelle va être la place des enfants du premier lit qu'il nous faut obligatoirement protéger? Parce que c'est pas le tout de refaire une deuxième union. Encore faut-il protéger les enfants de la première union. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on va limiter la possibilité pour celui qui reste de faire ce qu'il veut de l'actif successoral, c'est-à-dire de ce qui est tombé en succession du défunt. Donc, voilà une question aujourd'hui qui est particulièrement fréquente et récurrente, sans doute de manière plus régulière qu'il y a 2, 3 ou 4 décennies où c'était peut-être un sujet un peu moins d'actualité. Est-ce que j'ai des choses à faire du temps de mon vivant? Évidemment. Et particulièrement, on le verra dans quelques minutes, c'est une des solutions pour pouvoir flécher sa transmission et peut-être en limiter les coûts, c'est de réfléchir du temps du vivant. Les testaments, très bien, ok, on peut flécher sa succession, mais est-ce que par un testament, je vais faire en sorte que les héritiers payent moins de droits? Pas nécessairement. C'est pas au moment du décès qu'on se pose la question de combien je vais payer. Bah, c'est quasiment comme dans n'importe quel travaux. Je fais un devis avant d'avoir la facture finale. Eh ben, les donations, c'est la même chose. Je vais d'abord réfléchir en amont du décès. Je vais essayer de voir combien ça me coûte. Et puis, je vais essayer de faire en sorte que la facture finale soit la plus faible possible. Ben, c'est le principe des donations. J'anticipe, d'accord? Et c'est par l'anticipation qu'en théorie, on peut aller, qu'on peut aller gagner quelque chose. Les sociétés civiles immobilières. Alors, grand sujet. J'ai rien contre les SCI d'une manière générale. Ce sont d'excellents outils en matière de transmission. Encore faut-il qu'ils soient utilisés pour ce qu'ils sont. C'est pas imaginer qu'on va monter des SCI pour payer moins d'impôts sur le revenu. Déjà, ça n'existe pas, pour commencer. Si vous entendez quelqu'un vous dire « grâce à des SCI, je paye moins d'impôts sur le revenu », dans les faits, c'est pas le cas. Il pourra toujours opter pour l'impôt sur les sociétés. OK, pas de problème. Donc là, il n'y a pas de sujet. Sauf que ce que je n'ai pas accepté de payer du temps de la société, je le paierai à la sortie. Si tu revends. Mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui vend. D'un jour ou l'autre. Donc, après, mais c'est un différé d'imposition, hein. Là-dessus, pas de problème. Moi, ça me va, effectivement. Si à un moment donné, tu veux pas payer tes impôts pendant la durée de vie d'investissement, ou tu n'en as pas les moyens, parce que ça va aussi dans les deux cas, hein. C'est pas, tu veux pas ou tu peux pas. T'es en différé d'imposition. Donc, effectivement, sous cet angle-là, il y a une réalité économique et fiscale qui est intéressante. Oui, mais de toute façon, à un moment donné, la sortie fiscale, le décès n'élude pas l'impôt. Que ça soit le propriétaire initial ou les enfants, qu'il y ait vente du bien immobilier ou vente des parts, le décès n'élude pas la fiscalité. Oui, mais alors, effectivement, là, on va faire une donation avant cession, donc on va gommer les plus-values sur la valeur des parts. J'ai un bien immobilier, enfin, j'ai une SCI qui valait 500 000 euros. Au bout de X années, elle en vaut 1 million. Donc, si je donne la SCI pour une valeur d'un million d'euros à mes enfants et qu'eux vendent les parts, là, on a gommé la plus-value. Ils ont reçu 1 million, ils vendent 1 million. Donc, c'est le principe des donations avant cession. Je donne des parts, je la refais. J'avais un bâtiment artisanal ou quoi que ce soit, dans lequel, logé dans une SCI qui vaut 500 000 euros. Au bout de 15-20 ans, la dite SCI vaut 1 million d'euros parce que le foncier a beaucoup augmenté. Donc évidemment, si je cherche à vendre les parts, moi je vais prendre de la plus-value. Parce que mes parts valent 1 million, je les ai achetées 500. Si je donne les dites parts pour 1 million d'euros à mes enfants et que eux vendent les parts ensuite, j'ai donc fait une donation pour 1 million, les enfants vendent pour 1 million. Ben, 1 million moins 1 million, on gomme les plus-values. Ils n'auront pas de plus-value sur les parts. Donc les donations de parts avant cession gomment les plus-values. Ça, sur la valeur des parts, pas de problème. Par contre, l'immeuble qui est détenu à l'intérieur de la SCI, on ne gommera jamais l'impôt. Parce que l'impôt sur les sociétés permet d'amortir le bien, donc de limiter le résultat fiscal. Ok, pas de problème. Par contre, le jour où je revendrai, eh bien, je fais prix de vente moins la valeur nette comptable, et là, je paye de l'impôt sur tous mes amortissements. Et puis, ben, une fois que j'ai payé beaucoup d'impôts sur les amortissements, il faut que je sorte l'argent de la SCI. Et là, quand je sors l'argent de la SCI, dividende. Et bam, là, ben, dividende, aujourd'hui, c'est 30%. Alors, on peut dire 30%, c'est beaucoup, mais historiquement, c'est pas trop. Et bon, c'est parce que c'est pas moi qui paye, hein, on est d'accord. Et donc, alors, je reprends un petit peu sur le propos que je tenais. On ne gagnera pas en matière d'impôt sur le revenu en faisant des SCI. Par contre, on en différera les conséquences. Et ça peut valoir le coup d'en différer les conséquences. Je suis d'accord. Par contre, la SCI peut être un excellent outil sur la transmission. Parce que là, pour le coup, il est plus simple de transmettre des parts que des immeubles. Considérons, et notamment sur les valeurs des biens que vous avez ici sur l'île, j'ai un bien immobilier qui vaut 700 000 euros, j'ai deux enfants. Ben, je suis prêt à leur faire la transmission. Le problème, c'est que 700 000 divisé par deux, ça fait 350 000. Je vais me retrouver au-dessus des abattements. Est-ce que je peux donner trois murs sur quatre? Non, ça n'existe pas, ça. Je ne vais pas donner trois murs sur quatre, ça ne peut pas se faire. Alors que le bien, s'il est logé dans une SCI, évidemment, je peux donner les parts correspondantes aux abattements des enfants. Parce que si la SCI vaut 700 000 euros, je ne suis pas obligé de donner pour 700 000 euros les parts. Donc oui, avec une SCI, on va pouvoir être plus fin dans la transmission. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, encore faut-il que le bien ait été acquis en SCI, parce que le fait d'apporter un bien en SCI, je génère des plus-values immobilières. Enfin, une fois que les opérations sont déjà faites, parfois il est trop tard. Donc par contre, sur des acquisitions initiales, c'est à ce moment-là notamment qu'il faut vraiment bien se poser la question de ces montages-là. Mais par contre, je ne reparlerai pas trop de SCI, c'est pour ça que je m'appesantis un tout petit peu, parce que évidemment, depuis 15-20 ans, c'est un mode de détention qui est très, très, très développé. Et il me paraît particulièrement intéressant, enfin, la SCI me paraît particulièrement intéressante si à un moment donné, on y intègre une problématique de transmission. S'il n'y a pas de problématique de transmission, si à un moment donné, on ne s'en sert pas pour transmettre aux enfants, l'IS, ok, on aura gagné ça, mais par contre, c'est vraiment fait pour ça. Donc, faire des SCI pour faire des SCI, d'accord. Si derrière, on ne l'utilise pas en matière de transmission, dans bien des cas de figure, ça sera un coup de glaive dans l'eau. Hein. Ok. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, parce qu'une fois de plus, ça peut être aussi des sujets qui sont un petit peu techniques. Mais c'est vrai qu'il faut les prendre, les sociétés civiles immobilières, pour ce qu'elles sont. C'est d'excellents outils pour être à l'IS, par exemple, pour transmettre, mais il faut vraiment les utiliser pour ce qu'elles peuvent offrir. Seule la SCI n'offre pas d'avantage particulier. Okay, c'est un mode de détention. Alors, c'est là où je vais arriver sur la partie qui est peut-être un petit peu plus théorique, mais je vais essayer de faire la plus simple possible. Finalement, quand on décède, il y a deux transmissions envisageables. Vous avez les successions qui n'ont pas été préparées. C'est quoi une succession qui n'est pas préparée? C'est une succession dans laquelle il n'y a pas de testament, pas de donation. D'accord? Ben là, il y a des règles légales qui vont s'appliquer. Il y a des ordres. Les enfants vont être les héritiers prioritaires. S'il y a des enfants, derrière, c'est terminé, personne ne touche rien. Si j'ai pas d'enfants, on va regarder du côté des parents et des frères et sœurs. Et s'il n'y a pas de parents et frères et sœurs, on va commencer à les regarder du côté des grands-parents. Et puis s'il n'y a pas de grands-parents, on va regarder du côté des oncles et tantes, et ainsi de suite. Donc il y a des règles qui s'imposent, c'est ce qu'on appelle la dévolution légale. Bon, des termes un petit peu techniques, peut-être que vous en aurez déjà entendu parler, mais si je n'ai pas préparé ma transmission, il y a des règles qui s'imposent. Donc c'est là où, à un moment donné, on va les regarder. Est-ce que je peux contourner les règles? Oui, on peut les contourner. Encore faut-il préparer sa transmission, et on la prépare sous plusieurs angles. Donc ça peut être au décès. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Une transmission, ça se prépare, pas ça se prépare, ça peut se flécher au décès. On le flèche par le biais d'une donation au dernier vivant. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être ici, ont une donation au dernier vivant dans leur... Je ne crois pas que ça soit chez moi. C'est mon pacemaker, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Donc, la succession, je peux la préparer au décès par le biais d'une donation d'art vivant, parce que je vais vouloir protéger le conjoint survivant. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des legs ou des testaments. D'accord. Je peux préparer ma succession aussi du temps du vivant, les donations. Dans tous ces cas de figure-là, je vais pouvoir changer un tout petit peu les règles que prévoit le code civil, que prévoit la dévolution légale. La donation d'âme vivante, ça sera pour protéger le conjoint survivant. Les legs, les testaments, il y a quand même des limites. Il y a notamment une limite, c'est en présence des enfants. Les enfants sont des héritiers qu'on appelle réservataires. On ne peut pas déshériter un enfant en France. Dans les faits, on ne peut pas le déshériter sur ce qui passe chez le notaire. L'assurance vie, c'est un autre débat. Mais sur ce qui passe chez le notaire, on ne peut pas déshériter un enfant. Un enfant a le droit à la moitié de l'actif successoral de son papa ou de sa maman. Deux enfants ont le droit à 2/3. Trois enfants et plus ont le droit à 3/4. Et ça, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. Donc, quand je dis qu'on peut anticiper une transmission par le biais de testament, par le biais de donation, on sera toujours limité malgré tout à ces règles qui s'imposent. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais n'empêche que c'est quand même des règles qui, en France, s'imposent et les enfants sont protégés. Le conjoint est également bien protégé en l'absence d'enfants. Si, avec mon épouse, nous n'avons pas d'enfants, le conjoint devient un héritier réservataire. En l'absence d'enfants, je ne peux pas déshériter mon conjoint. Je ne suis pas là pour vous donner des mauvaises idées d'une manière générale, mais en l'absence d'enfants, le conjoint devient un héritier réservataire lui-même. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on peut faire certaines choses, mais malgré tout, toujours avec des limites. Là où il y a un petit peu moins de limites, c'est sur l'assurance vie. Alors évidemment, j'en parlerai pas parce que là, on est sur des sujets d'immobilier. Mais c'est vrai qu'avec l'assurance vie, on a quand même beaucoup plus de latitude. Pourquoi ? Parce qu'un contrat d'assurance vie n'est ni rapportable à une succession, ni réductible pour atteinte à la réserve des héritiers réservataires. Un peu compliqué ce que je vous ai dit, mais en gros, ça veut dire qu'on peut faire un certain nombre de choses avec l'assurance vie, mais qu'on ne pourrait pas faire autrement. Bon, alors je ne suis pas là non plus pour vous donner de mauvaises idées, mais n'empêche que, sachez que si vous voulez flécher au mieux une transmission, l'assurance vie qui n'est pas forcément ce qui est la chose la préférée, enfin, c'est pas forcément ce qui est la transmission préférée chez les notaires, hein. Moi je ne suis pas notaire, mais parce que ça passe pas chez notaire, justement, l'assurance vie ne passe pas chez notaire. C'est des choses qui voient parfois pas toujours d'un très bon œil. Mais oui, mais parce qu'à un moment donné, en fait, on change un peu les règles du jeu avec l'assurance vie. Donc évidemment, il voit pas ça toujours d'un très bon œil. Même si aujourd'hui, les choses ont bien changé par rapport à il y a quelques années. Donc, ça, c'était vraiment une petite introduction. Je vais vous présenter un premier exemple. Donc, je vous avais dit, on va essayer de traduire ça avec deux exemples. Alors, évidemment, il y a que des cas particuliers. Il n'y a pas de cas généraux. Chaque famille a sa propre spécificité par rapport au patrimoine qu'il détient, par rapport aux enfants qu'il a. Est-ce que c'est une famille recomposée ou pas? Donc là, j'ai pris un cas un peu bateau, j'aurais tendance à dire, mais au moins pour essayer d'introduire un certain nombre de problématiques. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un couple marié en communauté légale. 8 couples sur 10 en France est en communauté légale. C'est quand même majoritairement ce qu'on va retrouver. Donc, Monsieur Dubois, âgé de 83 ans, vient de décéder. Bon, il laisse son épouse, âgée de 79 ans, et 2 enfants communs. Bon, les enfants ont 51 et 48 ans. Laurent et Patricia, il a bien fallu leur donner un prénom. Donc, monsieur décède, 83 ans, il laisse derrière lui son épouse, 79 ans, et 2 enfants de 51 et 48 ans. C'était quoi le patrimoine de monsieur ? Enfin, c'est quoi le patrimoine ? Parce qu'on ne parle pas au passé. C'est quoi le patrimoine de monsieur et madame Dubois ? Eh bien, ils ont acheté en 1970... Avant-hier, ils ont acheté une maison qui vaut aujourd'hui 750 000 euros. Bon, Bourgeoisville, une maison, 750 000 euros, à mon avis, je ne suis pas trop déconnant. Monsieur Dubois, en 89, a hérité de ses parents d'une maison sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a gardé la maison, on peut imaginer peut-être qu'ils l'ont occupée sur le continent pendant l'hiver. Pourquoi pas ? La valeur de cette maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie aujourd'hui, c'est 310 000 euros. Ça appartient bien à un monsieur. Hein, je commence à faire un petit peu de distinction. Madame, elle, a hérité d'un bâtiment, un vieux bâtiment qu'il y avait sur Carbossy. Je fais un peu le malin, je connais pas très bien l'île-dieu, mais j'ai pris quelques noms de lieux-dits quand même pour faire local. Donc, madame a hérité d'un bâtiment devenu constructible à Carbossy, qui est devenu constructible, donc qui vaut 200 000 euros aujourd'hui. D'accord? Et puis des comptes bancaires pour 70 000 euros à côté. Je parle pas de l'assurance vie, une fois de plus, c'est en dehors de tout ce qui va nous intéresser. Il peut y avoir de l'assurance vie à côté, dans des proportions plus ou moins importantes, mais c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont une maison en commun. Monsieur a une maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, madame a un bâtiment à Carbossy, et puis quelques liquidités. Bon, ben, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Au décès de monsieur, il a donc, ce qu'on disait il y a quelques secondes, des biens propres, la maison à Saint-Gilles, donc il a pour 310 000 euros de biens propres. Hop, je vais essayer d'écrire là-dessus pour matérialiser. Donc il a 310 000 euros de biens propres. En communauté, ils sont mariés en communauté, on va additionner les comptes bancaires et la maison à Port-Joinville. Ça appartient en deux, c'est normal, c'est dans la communauté. Madame, elle, a reçu par héritage ou donation, je ne sais plus ce que j'ai dit, 200 000 euros, c'est le bâtiment de Carbossi. Bon. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'actif successoral de monsieur? Eh bien, on va retrouver le bien propre, 310 000 euros. On va retrouver la moitié de la communauté, 410 000 euros. D'accord? D'ailleurs, vous remarquez par vous-même que les comptes bancaires, je ne regarde même pas s'ils appartiennent à monsieur ou à madame. Tous les comptes bancaires, tous les livrets auraient pu être au nom de madame. Pour autant, il y en a la moitié qui rentre dans la succession de monsieur. Ce sont des actifs de communauté. Ils appartiennent aux deux. Hein, d'accord? Donc, l'actif successoral de monsieur, 720 000 euros. Bon, madame, évidemment, elle conserve la propriété de Carbossi, ça ne rentre pas en succession, c'est un bien qui lui appartient. Il n'y a aucune raison qu'on retrouve ça dans la succession de monsieur. Et puis, bah, elle va aussi avoir accessoirement la moitié de la communauté. Il y a la moitié de la communauté qui est tombée dans la succession de monsieur, c'est normal. L'autre moitié, c'est ce qui appartenait à madame. Donc, contact, madame, elle est propriétaire de 610 000 euros, la communauté, la moitié de la communauté, et puis son bien. Là-dessus, c'est le conjoint qui choisit ce qu'il va prendre. D'accord? Il faut déjà avoir ça en ligne de compte, c'est qu'indépendamment des choix qui seront faits, c'est le conjoint qui choisit. Est-ce qu'il va vouloir avoir de l'usufruit? Est-ce qu'il va vouloir avoir de la pleine propriété? Est-ce qu'il va vouloir avoir un mixte des deux? C'est le conjoint qui choisit ce qu'il va prendre sur la succession du défunt. Donc là, en l'occurrence, c'est Madame Dubois qui va choisir. Assez fréquemment, Madame Dubois, elle va souvent choisir l'usufruit. Dans un cas de figure comme celui-ci, Madame Dubois, elle va plutôt choisir l'usufruit. C'est assez fréquemment ce qu'on rencontre. Alors, je vais essayer d'expliquer l'usufruit, la nue propriété. Je pense que c'est des choses que vous comprenez plus ou moins. Alors, je prends toujours le même exemple, mais parce que je suis d'origine normande. Prenez l'exemple d'un pommier. Vous prenez un pommier, l'usufruitier, il peut monter dans l'arbre, manger les pommes et il peut les vendre. D'accord ? Le nu propriétaire, lui, passe devant le pommier tous les jours, mais il va falloir attendre que celui qui est dans l'arbre descende pour qu'il soit propriétaire. Enfin, quand il va descendre, d'ailleurs, il va vraiment descendre d'un coup d'un seul. Hein. C'est ça, l'usufruit à la nue propriété, c'est ça. L'usufruitier, il monte dans l'arbre, il mange les pommes ou il les vend, il fait ce qu'il veut. Par contre, il n'a pas le droit de couper l'arbre. S'ils veulent couper l'arbre, il faut qu'ils se mettent d'accord avec le nu propriétaire. Et à ce moment-là, ils se répartissent le bois de, ils en font ce qu'ils en veulent derrière. D'accord? Donc, le démembrement de propriété, c'est ça. L'usufruit, c'est le fait de jouir. Ou si je ne suis pas dans un bien immobilier, par exemple, je vais le mettre en location et je vais en toucher les loyers. Donc, la quasi-totalité du temps, en présence d'enfants communs, le conjoint survivant choisit l'usufruit. Bah oui, parce que il va avoir sur la moitié du patrimoine et ses biens propres, il va faire ce qu'il va vouloir. Et puis, sur l'actif successoral de monsieur, elle aura au moins l'usufruit, donc elle aura quand même un certain pouvoir sur le bien, ou au moins elle en tirera les fruits, d'accord ? Donc, je vous passe sur les possibilités autrement, madame, elle pourrait prendre de la pleine propriété, mais dans la vraie vie, c'est très rare que ça se passe, d'accord ? Donc, ça c'est possible parce que tous les enfants sont communs. Si monsieur Dubois avait eu des enfants d'un premier lit, cette option-là, par exemple, n'est pas possible. Vous voyez que je parle pas beaucoup encore de fiscalité. En fait, je me pose d'abord la question de ce que chacun va pouvoir avoir sur la succession, parce que si monsieur Dubois avait eu des enfants d'un premier lit, madame ne pouvait pas prendre l'usufruit. On aurait été obligé de procéder au partage. Sauf donation au dernier vivant. C'est là où il y a toujours une petite spécificité. Mais d'une manière générale, ce que je vous raconte est possible parce que les enfants sont communs. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que madame, sur la maison à Porchoinville, qui était la maison qu'ils ont acquis ensemble en 1970, madame, elle a la moitié en pleine propriété et sur l'autre moitié, elle a l'usufruit. Donc en clair, il ne peut rien lui arriver. Elle a l'usufruit de toute la maison. Il ne lui arrivera rien. Et parce qu'ils étaient mariés de toute façon, elle a un droit d'usage et d'habitation qui est viager. C'est-à-dire que du temps de son vivant, elle ne peut pas être mise dehors par les enfants. Le fait, pour les couples mariés, et quelle que soit la propriété du bien de Porchoinville, la maison va plus appartenir à monsieur, on s'en fout. Mais madame a bien un droit d'usage et d'habitation qui est viager, elle ne peut pas être mise dehors. Ok ? Sur la maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est monsieur qui l'avait reçue dans le cadre d'une succession. Donc on se dit, la maison, elle appartient à monsieur, au décès de monsieur, ça ira aux enfants. Non, la maison de Saint-Gilles, elle tombe dans la succession de monsieur. Comme madame a pris l'usufruit sur toute la succession, madame a l'usufruit de la maison de Saint-Gilles. D'accord ? Donc les enfants pensant peut-être récupérer la maison de Saint-Gilles, niette. C'est bien le conjoint survivant qui aura l'usufruit sur la maison, et donc il faudra bien qu'il se mette d'accord avec, elle faudra qu'elle se mette d'accord éventuellement avec ses enfants, si, pour des raisons diverses ou variées, ils veulent vendre Saint-Gilles, d'accord ? Et elle en fait ce qu'elle en veut jusqu'à son décès. Hein. Elle en fait ce qu'elle en veut jusqu'à son décès. Le bâtiment à Carbossi, oui ? Alors, ici, ça fonctionnerait parce que les enfants sont communs. Et mariés, bien sûr. Hein. Séparation de biens, pareil. Pareil. Alors en fait, on confond une chose, c'est que les régimes matrimoniaux, communauté, séparation de biens, ainsi de suite, c'est pour déterminer la propriété des biens à chacun des époux. Mais une fois qu'on a déterminé la propriété des biens à chacun des époux, les successions se passent toujours de la même manière. Toujours. Par exemple, ben là, de toute façon, là, j'ai fait exprès, en plus, de mettre que la maison était au nom de monsieur, qu'il avait reçu par donation. Donc, en fait, c'est comme une séparation de biens. C'est-à-dire que s'ils avaient été en séparation de biens, la maison de Saint-Gilles, c'était la sienne. Imaginons qu'il l'ait achetée. Eh bien, madame aurait également l'usufruit sur la maison. En fait, elle... Oui, oui, mais en séparation de biens, en fait, le régime matrimonial permet de déterminer à qui appartiennent les biens. Une fois qu'on a déterminé à qui appartiennent les biens, le règlement de la succession, il est toujours pareil. Madame, elle a le droit de prendre l'usufruit sur la succession de monsieur. Ça ne change rien. Je me répète, c'est toujours un peu technique. Je bascule sur la séparation de biens très simplement. Considérons que monsieur ait un bien sur l'île-Dieu, madame ait un bien sur le continent. Monsieur décède. Donc on va dire, dans l'actif de succession de monsieur, eh bien, il y a la maison de l'île-Dieu qui est dans l'actif de succession. Et ces gens-là étaient en séparation de biens. Une fois qu'on a déterminé l'actif successoral, le régime matrimonial, il n'y a plus de sujet. En fait, on a liquidé le régime matrimonial. Donc en fait, ils peuvent être en séparation de biens, en communauté, on s'en fout. Une fois que le régime matrimonial est liquidé, on s'intéresse à l'actif successoral. Dans le cas que je suis en train de donner là, il y aurait dans l'actif de monsieur une maison à l'île-Dieu qui lui appartenait. Et pourtant, madame, elle a le droit à l'usufruit dessus.
Les enfants ?
Ils sont devenus propriétaires. Donc, il va falloir qu'ils attendent le décès de la maman pour récupérer la pleine propriété. Ils sont devenus propriétaires. Non, ils ne peuvent pas enlever l'usufruit. Alors, dans des cas très particuliers, on peut demander à transformer un usufruit en équivalent financier, mais c'est vraiment des cas... On va dire que c'est des cas quand ça se passe pas bien, quoi. C'est dans l'immense majorité, heureusement, des successions, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la séparation de biens par rapport à une communauté, c'est quoi? C'est en fait, c'est vraiment de déterminer ce qui appartient à chacun. Mais une fois que le régime il est liquidé, bah, de toute façon, les règles c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Nous, on pense liquidation pour cause de décès là, mais on peut aussi penser liquidation pour cause de divorce, évidemment. C'est dans les deux cas de figure. Et là, évidemment, la séparation de biens, c'est plus la même. Parce que si monsieur, il a une maison sur l'île-Dieu et madame sur le continent, en cas de divorce, monsieur, il repart avec sa maison, madame, elle repart avec la maison sur le continent. C'est aussi ce à quoi servent les régimes matrimoniaux. Parce que parfois, bah, il est liquidé pas que pour des causes de décès, mais pour d'autres raisons avant le décès. Donc, bien avoir ça. Une fois que les biens sont tombés dans la succession, le conjoint, il choisit. En présence d'enfants communs, j'insiste bien. D'accord ? Le bâtiment à Kerbossi, pas de problème, madame, elle en avait hérité. Donc, elle en fait ce qu'elle en veut, pas de souci. Et puis ça, c'est pour l'anecdote, sur l'épargne bancaire, madame, elle fera aussi ce qu'elle voudra de l'argent. Parce que le fait d'être usufruitière de sommes d'argent, ça veut dire qu'elle en fait ce qu'elle en veut. Les placements, les livrets, les PEL, tout ce que vous voulez, les comptes titres, les PEA qui sont à la banque, quand monsieur est décédé, l'argent tombe sur le compte, certains contrats peuvent être conservés, mais l'argent tombe sur le compte, le conjoint, il faut que je partage avec les enfants ? Niet. C'est de l'argent. L'usufruit sur de l'argent fait que vous en faites ce que vous en voulez. On parle de quasi-usufruit, bon, c'est un peu technique, mais on dit que le conjoint survivant, il fait ce qu'il veut de l'argent. Donc on voit quand même qu'en présence d'un enfant commun, le conjoint survivant a une certaine protection. Naturellement, il a une certaine protection. D'accord ? Donc, maintenant, on va s'interroger un tout petit peu. Je regarde l'heure qu'il est, parce que comme je suis assez bavard d'une manière générale, il faut que je me méfie. On va regarder un petit peu le fiscal. Parce que c'est évidemment la deuxième étape. On a vu que le conjoint était plutôt bien protégé. Maintenant, qui va payer quoi dans l'affaire ? Alors, évidemment, on ne va pas détailler les calculs que j'ai faits là. Ils ne nous intéressent pas, c'est fait automatiquement. Pourquoi j'ai mis ça ? Tout simplement pour préciser quand même que, par exemple, au premier décès, il y a un abattement sur la résidence principale de 20%. Bon, ça existe. C'est qu'au premier décès. Ce qui explique quand même d'ailleurs qu'en général, on paye beaucoup plus de droits au second décès. Parce qu'au premier décès, il y a un abattement de 20% sur la résidence principale parce qu'il y a un conjoint survivant. Mais quand madame, elle va décéder derrière, il n'y a pas de conjoint survivant. Donc au deuxième décès, il n'y a pas d'abattement sur la résidence principale. Donc mécaniquement, en général, les successions sont beaucoup plus élevées au second décès qu'au premier. Rien que pour cette raison-là. Et évidemment, parce que sur une maison qui vaut 700 000 euros, un abattement de 20%, ça fait 140 000 euros en moins dans la succession. D'accord ? Donc bon, je vous passe sur les chiffres, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on paye à l'arrivée. Accessoirement, on peut quand même se rendre compte qu'on n'oublie pas que madame, elle est totalement exonérée. Madame, elle était totalement exonérée de droits à payer. Madame était exonérée de droits de succession. Elle est également exonérée de taxes, quelles qu'elles soient, sur l'assurance vie. Sur un contrat d'assurance vie, madame pourrait recevoir des sommes astronomiques au décès de monsieur. Combien est-elle susceptible de payer ? Zéro dans tous les cas de figure. Le conjoint survivant est totalement exonéré aussi bien sur l'actif successoral que sur les sommes qu'il reçoit dans le cas d'une assurance vie. Je parle bien ici de droits de succession. Évidemment, il va y avoir des émoluments chez le notaire, il va y avoir des frais d'acte, ça d'accord. Mais au niveau des droits, le conjoint, il ne payera rien. Par contre, les enfants. Les enfants, on l'a vu il y a quelques secondes, les enfants, ils ont droit à quoi sur la succession de leur papa ? Pour l'instant, de la nue propriété. En fait, ils n'ont rien en réalité. Parce que la maman, elle a l'usufruit sur la résidence principale, enfin, elle a même la moitié de la pleine propriété plus de l'usufruit. Elle a l'usufruit sur la maison de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle a la pleine propriété de Carbossy. Bon, ça, pas de problème. Elle a l'usufruit sur les placements. Donc, en fait, les enfants, pour l'instant, ils touchent presque du doigt ce qu'ils auront plus tard. Mais pour l'instant, ils n'ont rien du tout. Donc, et pour autant, ils vont payer des droits. Parce que la nue propriété, ça a une valeur fiscale. Et dès le premier décès, eh bien, je vous passe les calculs une fois de plus, les enfants, dans une succession comme celle-ci, paieraient 51 000 euros de droits de succession. Et mais on n'a rien reçu pour l'instant. Si, si, vous avez reçu de la nue propriété. Ouais, vous êtes gentil, mais la nue propriété, c'est rien. Oui, mais vous payez quand même. D'accord ? Donc, alors, évidemment, bien sûr, il faut envisager les choses en se disant qu'à quand l'usufruitier va décéder, quand Madame Dubois va décéder, on dit que l'usufruit s'éteint et le nu propriétaire devient plein propriétaire. Quand Madame Dubois va décéder, évidemment que tout ce qui est déjà transmis ici, ça ne repassera pas en succession. Donc c'est pour ça que les enfants, ils payent dès le premier décès. Parce que la nue propriété, peut-être qu'ils n'ont pas encore, ils n'en touchent pas à la réalité, mais il en demeure quand même pas moins qu'au second décès, ces sommes-là ne repasseront pas en succession. D'accord ? Donc vous ajoutez là-dessus 20 000 euros d'émolument du notaire, hein, à quelque chose près. Ben, c'est pas le notaire qui touche tout, hein, je vous rassure. Hein. Il y a un certain nombre d'actes qui... enfin, je vous rassure, je ne sais pas si je vous rassure d'ailleurs, mais il y a un certain nombre d'actes qui sont des taxes d'ordre fiscal. Ben n'empêche que voilà une succession qui coûte 71 000 euros d'entrée de jeu. Alors les enfants, s'ils ne peuvent pas payer, alors il y a plusieurs possibilités quand même. Les enfants du propriétaire peuvent attendre le décès de la maman pour payer les droits de succession. Ben oui, parce que vous êtes gentil, mais bon, ok, on voit qu'on a reçu pour peut-être 600 000, 700 000 euros de nue propriété, mais nous, on n'a pas un euro, on fait comment pour payer ? Eh bien, on les autorise à différer le paiement au décès de l'usufruitier. Il y a un taux d'intérêt légal, là. Ça ne se fait pas gratuitement non plus. Est-ce que la maman peut payer les droits de succession à la place ? Non, parce que c'est une donation déguisée. Alors, elle peut toujours donner un billet aux enfants en disant, bon, vous avez pour 50 000 euros de droits à payer, sur les droits, je vous fais une donation de 50 000 euros. Ok, très bien, mais il va falloir l'enregistrer. C'est une donation. C'est pas la maman usufruitière, elle n'a pas à payer les droits dus par les enfants. On va le voir tout à l'heure, c'est un peu différent dans d'autres cas de figure. Mais là, c'est bien les enfants qui doivent payer. Ils ont l'argent, ils payent. Ils n'ont pas l'argent, on diffère le paiement au décès de la maman usufruitière. D'accord ? Tout se fait pas gratuitement quand même. Une fois de plus, il y a un taux d'intérêt légal là-dessus. Bien sûr, il y a les 100 000 euros d'abattement. Ce que j'ai mis ici, j'ai pas fait le détail du calcul. On retrouve les 100 000 euros dans le calcul que j'ai mis derrière. Chacun des enfants avait le droit à 677 000 euros en nue propriété. Ça correspond à une valeur fiscale de 237 000, moins 100 000. En fait, ils payent des droits sur 137 000. D'accord ? Oui. Oui. C'est pas terrible. C'est toujours des cas qu'on n'aime pas trop, les enfants mineurs, parce que en matière de gestion, ça ne va pas être très simple. Alors, cependant quand même, ça, ce n'est pas inintéressant. Depuis 5-6 ans maintenant, il y a une réforme sur la représentation de l'enfant mineur. Auparavant, on avait toujours en tête, en se disant, quand un des parents décède, le conjoint survivant doit faire avec un juge et tutelle pour gérer, etc. Ça, c'est beaucoup moins vrai qu'auparavant. Le conjoint survivant, aujourd'hui, a des droits de représentation sur l'enfant mineur qui sont particulièrement importants. Il peut même gérer et vendre des biens du patrimoine de l'enfant mineur sans demander rien à personne. C'est assez surprenant. C'est même un peu limite dans certains cas. Imaginez un couple qui est divorcé, qui s'entend pas très bien. Les enfants mineurs récupèrent de l'actif successoral de la maman un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on considère que le papa qui reste en bon père de famille, peut gérer le patrimoine et voire même disposer de certains biens. Alors attention, hein, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Mais n'empêche que, est-ce qu'il a des comptes à rendre ? Non. Il a beaucoup plus de droits depuis 2018-2019 qu'auparavant. Et il se trouve que, pour avoir discuté encore récemment avec une avocate, et en fait, notamment dans des cas de divorce qui se passent relativement mal, il n'est pas complètement inintéressant que les parents se prémunissent de l'autre parent en allant nommer un représentant, un mandataire, ouais, un représentant qui va revenir représenter donc les intérêts de l'enfant mineur. Il pourra pas, entre guillemets, s'opposer au papa qui est resté, mais n'empêche qu'il aura un droit de regard. Donc à partir de là, il pourra pas faire ce qu'il voudra. Et ça, effectivement, c'est ces actes qui sont assez courants, a priori, chez un certain nombre d'avocats aujourd'hui. C'est pas des... Alors, une fois de plus, on est sur des cas un peu de contestation diverses et variées. Heureusement que ça se passe pas comme ça dans tous les cas de figure. Mais n'empêche que des divorces qui se passent pas très très bien, ça arrive quand même de temps à autre. Est-ce que l'un des deux, en cas de décès, a envie que ce qui est transmis à ses enfants soit géré ou mal géré par celui qui reste ? Vous avez compris ? Évidemment que non. Donc, je reviens sur l'histoire du mineur. Dérive parfois un peu. Les droits à payer. Eh ben, les droits à payer, le mineur, ben, c'est la même chose. Il a une créance, il a une dette. Donc, en fait, s'il a les moyens de le payer, il payera. Mais s'il n'a pas les moyens, c'est différé. D'accord ? Donc, dans les faits, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Alors, de toute façon, le mineur, il ne va pas pouvoir payer, parce qu'il n'a pas une capacité juridique pour payer. Mais s'il y a des liquidités pour qu'il puisse payer, on va payer. Ou alors, peut-être que là, le notaire peut aussi demander, pour le coup, un partage, en disant, mais il faut céder un des biens pour que chacun récupère une manne financière et pour payer les droits. Mais dans les faits, si la maman, elle choisit 100% en usufruit sur la succession, les enfants mineurs, ils auront des droits à payer qu'ils ne peuvent pas payer et qu'il leur faudra bien payer un jour ou l'autre. Mais on attendra, on ne leur imposera pas de les payer, on attendra le décès de la maman usufruitière pour pouvoir payer les droits. Dans la vraie vie, en général, ce qui se passe, dans la vraie vie. Souvent, ce qui va se passer, si les enfants sont mineurs, c'est qu'on peut considérer que le conjoint survivant est assez jeune. Donc, est-ce qu'il restera ad vitam aeternam dans sa maison ? C'est pas sûr. Donc, au moment de la vente de la maison, il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, on partage l'argent entre le conjoint survivant et les enfants mineurs. Et donc, à ce moment-là, ils ont récupéré les capitaux et ils peuvent payer leur créance fiscale. Ils peuvent aussi potentiellement demander un partage. Mais là, on tombe à nouveau sur du conflictuel, et ainsi de suite. Bon, c'est pas. Mais il y a une protection du conjoint survivant aujourd'hui qui est forte, effectivement. Considérons que madame, très peu de temps ensuite, décède. Bon, là, on a vu qu'il y avait quand même 51 000 euros de droits à payer, plus 20 000 euros, bon, petit peu de sous à sortir. Madame, de chagrin, décède peu de temps après son mari. Rien n'a été replacé, rien n'a été fait. Bon, une fois de plus, je vous passe, on ne fait pas les calculs, ça ne nous intéresse pas. La seule chose qu'on va aller regarder, c'est combien on paye à l'arrivée, d'accord ? On voit qu'accessoirement, on a perdu l'abattement des 20% sur la résidence principale. C'est normal, c'est qu'au premier décès, d'accord ? Donc, au deuxième décès, ben, ce qui va se passer, c'est que les enfants, quand même, vont récupérer la succession de monsieur, extinction de l'usufruit. La maman qui était usufruitière décède, les enfants récupèrent la succession du papa. D'accord ? Donc ça, c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont peut-être payé des droits au premier décès, mais n'empêche que ces montants-là ne repasseront pas en succession. Les enfants récupéreront ça au décès. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la succession de la maman ? Il y a donc Kerbossi, à la moitié de Port-Joinville. Il devait y avoir quelques actifs financiers, que sais-je. La maison de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle, évidemment, elle a été transmise, ça appartenait entièrement au papa. Eh bien, sur les montants dont on est en train de parler, au deuxième décès, 84 000 euros de droits à payer. Vous remettez une louche d'émoluments là-dessus à 18 000, 20 000 chez le notaire, et bibam, ben 102 000 euros. Premier décès, 71, deuxième, 102. Évidemment qu'il y a un beau patrimoine. Vous avez une maison de 700 000 euros résidence principale, vous avez une maison sur le continent à 310 000 euros, vous avez un bâtiment constructible à 200 000 euros, vous avez des liquidités pour 70 000 euros. Pour le commun des mortels, on est largement au-dessus du patrimoine moyen des Français. Hein. On est bien d'accord. Il faut quand même toujours bien se remettre ça en tête. Hein. On est largement au-dessus du patrimoine moyen des Français. Donc c'est normal que ça génère des droits. Et le problème, c'est qu'ici, c'est exacerbé, parce que n'importe quel bien immobilier, tout d'un coup, vaut très cher. La même situation sur le continent, alors pas sur le trait de côte, mais en campagne, ben, la maison déjà, elle ne vaut pas 750 000 euros, elle ne vaut que 200. Donc évidemment, tout de suite, il n'y a plus de problématique. Et puis l'éventuelle maison dont j'ai hérité également en campagne, peut-être qu'elle vaut 180 ou 220. Mais tout d'un coup, vous additionnez une résidence principale plus une deuxième maison, vous arrivez à 400, 500, 600 000 euros de succession et d'actifs successoral. Divisé par deux, les enfants, ils payent rien. En fait, ici, ils payent parce que la valeur des biens immobiliers est importante. Mais la même situation sur le continent, pas sur le trait de côte, évidemment, si on est au Sable d'Olonne ou je sais pas où, ou à la Baule, on va avoir la même situation. Mais par contre, vous allez 50 km à l'intérieur des terres, vous allez dans le Bocage vendéen ou dans le Maine-et-Loire où j'habite, ça va être la même musique. Hein. C'est évidemment pas la même musique. D'accord ? Donc, on voit quand même qu'il y a des coûts. Comment on aurait pu peut-être essayer d'en réduire la voilure ? Alors, les donations. Évidemment, les donations sont une solution pour réduire la voilure. Mais on ne fait pas des donations comme ça en un claquement de doigts en disant on a vu ou on pense que nos enfants vont payer beaucoup de droits, il faut faire des donations. Oui, peut-être qu'on va en passer par là, mais n'empêche que ça nécessite une vraie réflexion. Une vraie réflexion avec les gens qui vous accompagnent, notaire notamment, parce que c'est quand même lui qui, en matière de conseil, est le mieux placé pour accompagner ses clients sur de la transmission de patrimoine. Notaire, quel qu'il soit, c'est pas le sujet, mais c'est des gens qui sont spécialisés sur le droit civil, c'est quand même leur boulot. Parce que vont se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je fais des donations simples ? Est-ce que je fais des donations partage ? Une donation partage, en fait, sur une donation partage, je fais le partage au moment de la donation. Donc, on n'en reparlera jamais. Une donation simple, un truc qui est très méconnu, sur une donation simple, c'est pas parce que j'ai donné un bien ou que j'ai fait une donation de somme d'argent à un de mes enfants et qu'il s'est passé 15, 20 ou 25 ans qu'on n'en reparlera jamais. Une donation simple, le partage n'est pas fait. Donc une donation simple est toujours réintégrée dans la succession de celui qui a donné pour vérifier qu'il y a égalité entre les héritiers. Donc il faut être méfiant. Je fais un tout petit rapport, un tout petit parallèle. Les dons familiaux de sommes d'argent. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez, les 31 865 qu'on peut faire quand les parents ont moins de 80 ans, qui peuvent faire un don à leurs enfants, petits-enfants, dans les limites de 31 000. On nous dit, ah oui, ça repassera pas chez notaire parce que c'est exonéré de rappel fiscal. Ouais, d'accord. Mais par contre, ça repasse chez le notaire pour vérifier l'égalité entre tous les héritiers. Un des enfants avec les 31 000 euros a créé une entreprise, elle vaut demain 1 million d'euros. Ce million d'euros doit être normalement réintégré dans l'actif successoral du défunt. Donc, on ne s'amuse pas à faire des opérations seules sans être accompagné. Alors évidemment, c'est un cas d'école, ce que je vous donne. Et évidemment que ça ne se produit pas tous les quatre matins. Heureusement, bien sûr. Mais les donations simples, dès lors que le partage n'a pas été fait, il y a ce qu'on appelle le rapport civil des libéralités. On remet les donations antérieures dans la succession pour s'assurer qu'il y a égalité entre les héritiers. Et s'assurer qu'on n'a pas donné au-delà de ce qu'on appelle la quotité disponible. Parce qu'une fois de plus, les enfants ont une réserve héréditaire et il doit y avoir une forme d'égalité entre eux à l'arrivée. Une donation partage, ça élude le problème. Parce que quand on fait une donation partage, tout le monde n'a pas nécessairement la même chose. On peut ne pas forcément avoir la même chose dans une donation partage. Par contre, on arrête les compteurs. Au moment où c'est donné, on ne reviendra pas dessus. Alors après, on régularisera au décès, on donnera peut-être plus à l'un qu'à l'autre aussi dans la donation. Souvent, la donation partage, on ne va pas se mentir, on essaie de faire des lots pour que tout le monde ait la même chose. Mais des fois, c'est pas simple. Hein. Une fois de plus, c'est pas parce que je donne une maison de 700 000 euros à Lilieu que j'ai l'équivalent dans la donation partage à donner la même chose au deuxième. Hein. J'ai peut-être pas forcément pile poil la même chose à donner. Donc une donation partage, c'est pas forcément des lots de même valeur, mais au moins, les sommes, elles sont arrêtées. Et on ne tiendra pas compte de la valeur 15, 20 ou 25 ans plus tard pour recalculer l'égalité entre les héritiers au décès. Hein. Donc il y a des petites questions quand même qui sont pas neutres. Est-ce que je me conserve l'usufruit ou pas ? Sur les donations, il y a effectivement toujours la question qui se pose, et notamment pour les parents qui donnent, c'est de se conserver l'usufruit, ce que je disais tout à l'heure. Je donne les biens, mais je me conserve l'usufruit. Comme ça, au moins, j'ai les loyers. Au moins, je peux occuper le bien. Donc, évidemment, ça a un énorme impact parce que ça va diminuer la valeur transmise. Il y a un barème fiscal, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y a un barème qui dit qu'en fonction de l'âge de celui qui donne, eh bien, on diminue la valeur des biens donnés. Donc, évidemment, plus on donne tôt, moins ça coûte. C'est du fait du démembrement de propriété. Mon fils, le donataire, j'y ai fait une donation. S'il décède avant moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est son épouse qui récupère ? Le genre de question qu'on peut se poser aussi. Alors, s'il y a des enfants, pas de problème. J'ai fait une donation à mon fils décède avant moi, ça ira bien à ses enfants. Pas de sujet. Oui, mais il n'a pas d'enfants. Dans les faits, ça n'ira pas à son épouse. Ça revient. Ah oui, parce que là, pour le coup, il y a un transfert de propriété. Mais d'accord. Si mon fils décède, normalement, les donations sont toujours assorties de clauses de retour. C'est-à-dire que sur des biens donnés en nature, par exemple un bien immobilier, on va considérer qu'on donne un bien immobilier à son fils qui n'a pas d'enfant. Si mon fils décède avant moi, on va vouloir que la maison revienne dans le patrimoine de celui qui a donné, de manière à ce que ça aille à ses frères et sœurs. C'est toujours envisagé ce genre de choses. Oui.
Sur la conservation du usufruit ou pas, il n'y a pas eu un truc là, sur la dernière loi de finances justement qui disait que quand il y a eu des membres ensuite et une donation, ils rapporteraient la valeur donnée au moment d'héritage.
Ce qui s'est passé dans la loi de finances, alors je vais vous donner le titre, comme ça, ça va vous faire, ça va vous effrayer un peu. La créance de restitution suite à une donation de somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit n'est plus déductible du passif successoral. Il n'y a rien compris, c'est normal. Donc, en fait, c'est un truc qui se passait. Ouais, en fait, c'est un truc que personne faisait. En fait, il fallait imaginer que certains faisaient des donations d'argent et se réservaient l'usufruit. D'ailleurs, je donne un billet à mon fils, mais je lui dis, tu l'as vu, mais tu l'auras pas, parce que j'en garde quand même. Je te donne que la nue propriété. Or, la nue propriété d'un billet de banque, vous m'avez compris, tu le vois, mais t'en fais rien du tout. Donc, on faisait des donations avec réserve d'usufruit de sommes d'argent. Et ça, ça matérialise une dette à mon décès, ce qu'on appelle une créance de restitution, une dette dans le passif de succession. Et bien désormais, la loi de finances, elle nous dit, tu fais une donation de somme d'argent, tu te réserves l'usufruit, il n'y aura pas de dette dans ta succession. Est-ce que c'est un petit...
C'est que pour ça. C'est des donations
sur le reste, ça ne change rien. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un cas, très honnêtement, je ne l'ai jamais vu faire, va être un peu tordu quand même. Mais bon, tu donnes une somme d'argent, tu te réserves l'usufruit, donc il n'en voit pas la couleur, clairement. Mais par contre, toi, tu dépenses tout l'argent. Donc, il y a ça de moins dans ta succession, mais en même temps, tu générais un passif dans la succession. En fait, tu gagnais sur les deux tableaux. Bon, il y a toujours des solutions hein, pour contourner les règles. Bon, ben voilà ce que dit la loi de finances. Niette, ça c'est fini. Mais c'est, vous avez bien compris, un truc un petit peu exotique. Les 15 ans, alors souvent vous en entendrez parler, entre le moment où celui qui donne et le décès, il faut qu'il se passe 15 ans. Oui, parce que s'il ne se passe pas 15 ans, il y a ce qu'on appelle la règle du rappel fiscal. Là, je vous parlais tout à l'heure qu'on ramène dans les successions les donations simples, quelle que soit la date. Mais là, sur le fiscal pur, en gros, il faut qu'il se passe 15 ans entre le moment où je donne quelque chose aux héritiers et le moment où je décède. Si les 15 ans sont passés, eh bien, on ne reviendra pas sur la fiscalité. D'accord ? Mais finalement, est-ce que c'est un problème ? Parce que souvent, cette histoire des 15 ans, ça nous encourage à faire des donations jeunes. Ça, c'est une bonne idée. Mais est-ce que pour autant, je dois m'interdire de faire des donations plus tard, à 75, 80 ans ? Bon, on va dire, soit on est optimiste et pas de problème, on se dit, j'ai 80 ans, de toute façon, ma famille, on vit vieux, donc pas de problème, on ira à 95, 96, 97, c'est une solution. Mais on peut aussi décéder en cours de vie. S'il ne se passe pas 15 ans, est-ce que c'est réellement un problème ? Ben, pas forcément dans les faits. On le verra dans l'exemple que je traite là, parce que le fait de décéder avant 15 ans, là, pour le coup, on gomme toutes les futures évolutions des biens immobiliers. Imaginez quelqu'un qui, à 78 ans, sur l'île, fait la donation d'un bien immobilier qui vaut 700 000 euros. Il se garde l'usufruit, hein, donc il ne donne déjà que la valeur de la nue propriété. Il décède 7, 8, 9 ans plus tard. Ah merde, on n'a pas été aux 15 ans. Mais ce n'est pas très grave à la rigueur, parce que peut-être que le bien qui valait 700 000 euros aujourd'hui en vaudra 1 million dans 7, 8 ou 9 ans. Et là, pour le coup, là, la différence, elle est complètement gommée. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, il vaut mieux s'y prendre de bonne heure quand même. Hein. C'est quand même préférable, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord ? Oui ?
À vos enfants, voilà. Entre, dans les 15 ans qui vont suivre, est-ce que vous voulez cette donation ? Si vous voulez vendre, vous vendez, vous gérez comme vous voulez ?
Alors, si on fait une donation avec réserve d'usufruit, si on vend, normalement on partage entre l'usufruitier et le nu propriétaire. L'enfant du propriétaire peut laisser la somme d'argent à l'usufruitier. C'est-à-dire, je donne un bien immobilier à mes enfants, je m'en réserve l'usufruit. D'accord ? 7, 8, 9 ans plus tard, pour des raisons diverses ou variées, des problèmes de santé, je vends. Bon, normalement, on met fin au démembrement de propriété. On parle d'un démembrement de propriété. Au moment de la vente, le démembrement n'existe plus et les enfants du propriétaire devraient récupérer ce qui leur revient. Et l'usufruitier devrait récupérer ce qui leur revient. On doit partager. Ça, c'est la règle de droit. Par contre, rien n'empêche les enfants de dire, à la maman par exemple, on te laisse toute la somme d'argent. Parce que bah, du temps de ton vivant, c'était quand même quelque chose que tu avais développé avec papa, on te laisse l'argent. C'est une possibilité. Et c'est d'ailleurs pas idiot fiscalement. Parce que si tu laisses tout l'argent à l'usufruitier, en fait, l'usufruitier, il va potentiellement racheter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce qu'on va... On va refaire le démembrement de propriété. On va, ce qu'on a, on va dire, on parle de subrogation. C'est-à-dire que le démembrement de propriété qui existait sur le premier bien, paf, on va le remettre sur le deuxième. Tu étais en usufruit d'une propriété sur le premier bien, tu le vends. Les enfants laissent l'argent à la maman, elle rachète un bien immobilier, et sur le nouveau bien immobilier, on refait usufruit d'une propriété. Donc les enfants nus propriétaires ont tout intérêt à laisser l'argent à la maman, par exemple. Ben maman, ou le papa, comme on veut. Donc, mais dans les faits, de plein droit, normalement, on fait le partage. Normalement, on fait le partage. Là, ça dépendra aussi de la volonté des enfants. Hein. Si les enfants, vous m'avez compris, s'ils ont besoin d'un petit peu de sous, peut-être qu'à un moment donné, ils se diront un tien vaut mieux que de tout l'aura. Shrek. Bon. Ça dépend de l'âge du capitaine. Et le capitaine, c'est l'usufruitier. Il y a un barème qui nous dit quoi ? Quand l'usufruitier, celui qui a donné, qui s'est gardé l'usufruit, hein. Je vais prendre un exemple, s'il a entre 71 et 81 ans, c'est, 30%. Un exemple très simple. J'ai 75 ans. Je me donne 100 000 euros. Je m'en garde l'usufruit. Eh bien, l'usufruit, ça vaut 30 000. La nue propriété, ça vaut 70 000. Il y a un barème qui détermine. Et en fait, ça dépend de l'âge de l'usufruitier. Si l'usufruitier a 65 ans, c'est 40%. Si l'usufruitier a 75 ans, c'est 30%. Si l'usufruitier a 85 ans, l'usufruit, c'est 20%. Évidemment, plus l'usufruitier est âgé, ben plus la valeur d'usufruit, elle est faible. Parce qu'on se rapproche quand même petit à petit du bout. Quoi, hein. Donc, à un moment donné, la valeur d'usufruit, elle diminue.
Donc, l'avantage
de
la donation à l'œuvre de tout le monde, c'est combien
doit payer. Alors, la donation qui a été faite, tu t'es gardé... Enfin, on s'est gardé... excusez-moi, j'ai le tutoiement un peu facile. Quand j'ai fait une donation, qu'on s'est conservé l'usufruit, bah après ça va dépendre de l'âge auquel on l'a fait, mais une fois que la donation elle est faite, quand le donateur, celui qui a donné, décédera, c'est terminé. C'est-à-dire que l'enfant nu propriétaire devient plein propriétaire, on n'en reparlera pas. On ne paye plus rien, sauf si la donation a moins de 15 ans. C'est là le problème, c'est mon histoire des 15 ans. Sauf si la donation a moins de 15 ans. D'accord ? Donc, et après 15 ans, on peut en remettre une couche. Alors, l'histoire des 15 ans, c'est aussi valable pour les abattements. Ces fameuses histoires des 100 000 euros d'abattement. Où là, je me dis, effectivement, j'essaye de faire des donations à mes enfants dans la limite des 100 000 euros, parce qu'en dessous de 100 000 euros, ils ne payent rien. Et c'est ça qu'on reconstitue tous les 15 ans. C'est l'abattement des 100 000 euros par parent, par enfant. Là, je prends l'exemple. Donc, on se souvient du cas de monsieur et madame Dubois, là. Considérons qu'à 60-65 ans, ils aient fait la donation. Monsieur a fait la donation de la maison à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Et madame, je vous rappelle, elle avait un bâtiment à Carbossy. Monsieur avait une maison de 310 000 euros à Saint-Gilles. Madame avait un bâtiment à Carbossy. S'ils avaient un petit peu anticipé les opérations, monsieur et madame Dubois auraient pu faire une donation. Si la donation a plus de 15 ans, ils l'ont fait à 60-65, hein, ils décèdent à 80, pas de problème, hein. Donc là, les 15 ans seraient passés, donc impeccable. Les deux biens, ils auraient été transmis, parce que c'est un coût, une donation quand même. Oui, mais le fait d'avoir donné Carbossy, le fait d'avoir donné Saint-Gilles, ça aurait coûté combien ? Eh bien, dans les faits, comme ils l'ont donné relativement jeune, avec le barème dont je viens de parler, l'usufruit est beaucoup plus important quand on est jeune, eh bien, le fait de donner 310 000 euros à 65 ans ou 200 000 euros à 65 ans, ça coûte rien en matière de droit. Le calcul, je ne vais pas vous le faire, mais ça ne coûte rien en matière de droit. Il y a quelques émoluments à payer chez le notaire. Il y a des frais d'acte à payer. Si je donne un bien de 310 000 euros alors que j'ai 65 ans, à deux enfants, ça va coûter combien en droit de succession ? Zéro. Par contre, ça va me coûter 9 000 euros de frais d'acte chez le notaire. Et je ne passe pas à travers les gouttes, mais ça me coûte quand même un billet de 9 000 euros. Mais en termes de droit, j'ai utilisé mon abattement des 100 000. La maman Carbossy, ça vaudrait environ 6 000 euros. Donc, il faut accepter de les sortir quand même. Hein. Évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire. Il y a quand même 15 000 euros à sortir, à la mine de rien. Bon, mais si on est en mesure de le faire, bien ces 15 000 euros, ils peuvent être payés par les parents. Contrairement au droit de succession dont je parlais tout à l'heure. Les droits de succession, au décès, ils ne peuvent pas être payés par les parents. Là, les parents peuvent payer les 15 000 euros à la place des enfants. Par la façon, c'est des frais d'acte. Hein, donc, il va bien falloir payer le notaire. Celui qui paye, c'est les parents. Hein, donc, les parents payent les 15 000 euros. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ? La donation a plus de 15 ans au décès, donc pas de problème. Le donateur est décédé après 15 ans, pas de problème. La succession ici,
Qu'est-ce que j'ai mis au décès de M. Dubois, les droits de succession ne seraient plus que de 6 000 euros plus 12 000 euros d'actes, 18 000 euros. Tout à l'heure, je parlais de 71 000 euros avec les actes, hein, bien sûr. Et là, on n'est plus qu'à 18. Enfin, que. N'empêche qu'on a quand même sacrément fait fondre les opérations. Alors, bien sûr, hein, on a payé 9 000 à la source. Mais bon, et vous m'avez compris, hein, entre 18 et 71, le 9 000 qu'on a payé à la source, il vaut peut-être quand même le coup de s'y pencher. Et au décès de Mme Dubois, j'avais recalculé que là, dans un cas de figure comme celui-ci, ben, au décès de Mme Dubois, on arriverait à 43 000 euros de droits, 11 000 euros de frais d'acte. Ça ferait 54 000 euros à payer. Dans le cas initial, c'était 102 000. Hein. Donc, on voit l'impact de faire des donations relativement tôt. Là, c'est vraiment l'exemple même, très commun, très classique. Là, hein, vraiment, on voit l'impact de faire des donations relativement tôt. Alors après, évidemment, c'est le cas idéal. Pourquoi ? Parce qu'on est bien sur une donation qui a été faite tôt, on est dans la limite des abattements, tout va bien. C'est sûr que de transmettre un bien qui vaut 700 ou 800 000 euros à un seul enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Et parce que là, le problème, c'est que même en se gardant l'usufruit, ben évidemment, on va dépasser les abattements des 100 000. Mais n'empêche que si les parents qui donnent ont les moyens de le faire, il y aura toujours du gain quand même à l'arrivée. Il y aura toujours du gain. Et là, j'ai pris une deuxième solution. Les parents n'ont pas eu le temps. Je pourrais vous donner la copie, pas de problème. Si les parents s'y étaient pas pris suffisamment tôt, ils ont 75 ans quand ils se posent la question. On n'a jamais rien fait, on nous a dit qu'il fallait le faire, blabla. Ok, bon, pas de problème, on y va. 75 ans, ils se décident de faire la donation. Bon, allez, il faut être un petit peu optimiste pour tenir les 15 ans, on est bien d'accord. Bon, et bien s'ils ne les tiennent pas les 15 ans, ça veut dire que... Alors, j'en étais où moi ? Si les donations étaient faites, il y a moins de 15 ans. Blablabla. Je regarde. Ouais, c'est ça. Si les donations, j'ai même du mal à me relire. Si les donations ont été faites il y a moins de 15 ans, ça veut donc dire que là, il va falloir repayer. La donation, elle a moins de 15 ans, ça va repasser pour le calcul des droits de succession. Bon. Il n'y a pas l'exonération du rappel fiscal. Je vous rappelle ce qu'on vient de se dire, ça coûte 6 000 euros et 9 000 euros de frais de notaire quand même à faire les donations à 75 ans, ça ne va pas changer les deux prix. Par contre, au décès de M. Dubois, eh bien, on se retrouverait avec 57 000 euros à payer en lieu et place des 71 000. Donc ça montre quand même que c'est évidemment moins efficace, mais il y a quand même encore un gain à le faire. Et là où c'est encore plus fort, c'est sur le décès de madame. Je parle bien ici, les parents ont fait des donations à 75 ans, donc un peu plus tard. Malheureusement, les 15 ans se dérouleront pas. Mais pour autant, quand même, on gagne un tout petit peu à l'arrivée, d'accord ? On va gagner au décès de monsieur de l'ordre de 14 000 euros. Au décès de madame, on va gagner de l'ordre de 24 000 euros. Ça reste favorable, mais ça reste surtout favorable parce que on ne connaît pas l'évolution des biens immobiliers. Le bien qui a été donné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 310 000 euros, peut-être que 7, 8, 9 ans plus tard, c'est plus 310 qui vaut. C'est peut-être 380, c'est peut-être 400, c'est peut-être 420. Et ça, c'est gommé. Donc, l'intérêt de faire des donations, même tardivement, c'est qu'on va gagner, mais moins que jeune, ça c'est sûr. Par contre, on élude les problèmes de plus-value future. Donc, ça vaut le coup de se poser la question. Oui ?
Des projets de loi, parce que ça semblait bien pour le sujet, d'ailleurs, vous donnez une très belle explication. Est-ce qu'il est prévu que ces abattements peuvent varier d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre, justement, parce que notre problématique est une problématique temporale et que vous habitez, les abattements et pas.
Moi, j'habite dans la Cambrousse, on n'a pas besoin d'abattement.
Par rapport aux représentations, ce n'est pas équitable. Ouais. Donc, on a en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il est prévu dans les prochains projets de loi ?
Non.
J'avais la réponse, mais je voulais.
Non, parce que le problème, c'est que derrière, ça générerait un problème d'équité territoriale. C'est-à-dire, en fait, tout le monde ne serait pas traité à la même sauce. Je suis même pas sûr que constitutionnellement parlant, ça serait légal. Je peux me tromper, hein, mais à mon avis, même constitutionnellement parlant, ça ne serait pas légal. Mais c'est une vraie réflexion. Ouais.
Par contre, il me semble que c'est des choses qui peuvent bouger.
Les durées, les montants ?
Oui.
Oui. Ça peut. Tout à fait. C'était, on ne va pas faire de politique fiction, mais c'était une des demandes de LR il n'y a pas très longtemps.
Je vais même vous dire, mais une fois de plus, avec, prenez pas ça pour un avis ou quoi que ce soit. J'étais à peu près persuadé que suite à la signature de la réforme des retraites, il y avait une des contreparties pour avoir la signature de LR, c'était justement d'augmenter les abattements successoraux ou de diminuer la règle des 15 ans. Sauf qu'il y a une toute petite problématique en France quand même, je pense que vous en avez entendu parler en début de semaine, bah c'est la dette. Comment on fait pour baisser les impôts alors que je crois qu'on va payer 55 milliards d'intérêt de la dette cette année, ça va devenir, les intérêts de la dette vont s'approcher du budget de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que demain, d'ici peu de temps, le premier poste de dépense en France, ça pourrait être le remboursement des intérêts de la dette. Ben, comment vous faites pour baisser les impôts? Moi, je sais pas. Donc en l'état, à mon avis, c'est enterré. Alors après, moi je suis pas dans les... Je vous laisse traduire mes propos. Je vous laisse seul juge de mes propos, on est d'accord. Donc, anticiper la transmission, c'est potentiellement, on l'a vu faire des économies fiscales, c'est permettre aux héritiers de conserver les biens familiaux. Et puis surtout, un facteur, c'est de procéder au partage du temps du vivant. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance, mais il n'est jamais trop tard, particulièrement sur des secteurs tendus comme ici, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça sera peut-être moins efficace, mais pour autant, ça vaut peut-être le coup quand même d'y aller. D'accord? Je regarde toujours l'heure qu'il est. C'est 6 heures?
Ouais.
Ouais, d'accord. Bon. Mais tant pis pour vous, j'ai le temps de passer le deuxième exemple. Si on est bientôt débarrassé, mais non. J'ai pris un deuxième exemple qui, là, cette fois-ci, n'est pas celui de parents qui détiennent un patrimoine un petit peu large. J'ai plutôt été chercher du côté d'un couple de jeunes qui achètent leur première maison ici. Enfin, un couple de jeunes. Ils ont peu ou prou mon âge, donc ils sont moyennement jeunes. Monsieur et Madame Leblanc, cette fois-ci, ils ont quel âge? 49 ans. Bah oui, c'est mon âge. Ils ont 49 ans. Ils ont acheté en 2008 une maison sur l'île, à crédit, pendant 25 ans. Bon, classique. La maison aujourd'hui, elle vaut la modique somme de 700 000 euros. À côté, ils ont quelques placements, PEL, livrés, enfin des choses assez simples. Ils ont peut-être un ou deux contrats d'assurance vie, mais une fois de plus, ça passe pas en succession. Donc l'assurance vie, on met ça de côté. Le crédit sera remboursé par l'assurance. Cas de décès de l'un des deux, de monsieur ou madame Leblanc, ils ont peut-être fait un prêt avec une assurance à 100%, ça sera remboursé. Si c'est pas couvert à 100%, c'est pas remboursé hein, quand même. Mais bon, moi je suis parti du principe qu'ils avaient été plutôt prévoyants, c'est remboursé. Monsieur Leblanc, malheureusement, décède accidentellement. En fait, là pour le coup, on va pas faire de chiffres, hein. On va que réfléchir d'une manière générale. Je vous ai donné un cas qui est très bateau, un bien immobilier, un peu de placement à la banque. Un bien immobilier sur l'île-Dieu et un peu de placement à la banque. En fait, les questions qui vont se poser, c'est qu'on sait quoi? Qu'il y a la moitié de la maison, a priori, ça, hein, qui va rentrer dans la succession. D'accord? Mais c'est là la question qu'on se posait tout à l'heure. D'abord, va falloir se poser la question de l'union. Est-ce qu'ils étaient mariés, déjà? Et c'est là où on va commencer à peut-être aller sur d'autres sujets. Mais s'ils étaient mariés, il faut se poser la question de est-ce qu'ils étaient en communauté? Oui, s'ils étaient en communauté, pas de problème. Bon, ça pèse 50%. D'accord? Bon. Mais par contre, s'ils étaient en séparation de biens, là, c'est là où on regarde. Est-ce qu'il y a un apport plus important de l'un côté? Est-ce qu'il y en a un autre qui avait des revenus supérieurs, qui a remboursé plus? Donc là, il faut réfléchir en quote-part. Mais pour autant, une fois qu'on aura déterminé la valeur de ce qui rentre en succession, le conjoint survivant, il aura bien le droit de prendre de l'usufruit, ça ne change rien. Le couple n'est pas marié, mais paxé. OK. Ce couple avait fait le choix du pax. Je vous rappelle que depuis, c'était pas l'année dernière, mais en 2022, il y a eu plus de pax en France que de mariages. C'est quand même devenu quelque chose qui est fréquent en la matière. Donc, la plupart des pax, je vous ai mis, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses derrière, la plupart des pax fonctionnent comme une séparation de biens. D'accord? Un pax aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est une séparation de biens. Donc, ça équivaut sur le partage, hein, à une séparation de biens. Et puis, s'ils étaient concubins, concubins, c'est une séparation de biens, évidemment. Il n'y a rien, il n'y a pas de contrat, y a rien, donc chacun a son patrimoine, point, terminé, pas de sujet. Et donc évidemment, l'incidence de la manière dont ils étaient unis va avoir quand même un petit peu de conséquences. Maintenant, on va quand même s'intéresser à qui récupère quoi là-dedans. Est-ce qu'il y avait des enfants? La présence des enfants, elle est fondamentale, parce que c'est, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, mais les enfants éludent les héritiers suivants. Si j'ai des enfants, le conjoint aura quelque chose. mais les parents n'auront rien, les frères et sœurs n'auront rien, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on réfléchit, ce qu'on appelle en ordre. Il y a un ordre dans la dévolution. Les enfants en premier, les parents et frères et sœurs en second, les grands-parents en troisième, les oncles et tantes en cinquième, en quatrième, pardon, et puis en cinquième, c'est l'État. Quand je ne trouve pas de cousin jusqu'au sixième degré, l'État rafle la mise. Donc, s'il y a des enfants, pas de problème, les parents ne toucheront rien. S'il n'y a pas d'enfants, les parents deviennent en partie héritiers. Les enfants comme les parents, ils sont fiscalisés avec un abattement. On a déjà parlé, donc je ne me reviens pas là. Il y a l'abattement des 100 000 euros et puis il y a un barème derrière. D'accord ? Dans l'ordre de succession, le conjoint, il a une place qui est un peu spéciale. Parce que pour l'instant, je me suis intéressé aux enfants, mais je ne me suis pas intéressé au conjoint. Le conjoint, il a une place qui est un peu spéciale. En présence d'enfants communs, le conjoint, il va se partager la succession avec les enfants. D'accord ? Mais s'il n'y a pas d'enfants, eh bien, le conjoint survivant devient l'héritier majoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il hérite de tout. Prenons un couple sans enfants, marié, hein, couple sans marié, monsieur décède, il y a la moitié de la succession qui va aux parents de monsieur et la moitié qui va au conjoint survivant. En l'absence d'enfants, la moitié de la succession va aux parents du défunt, la moitié au conjoint survivant. Alors si on fait une donation au dernier vivant, on peut régler. D'où l'intérêt des donations au dernier vivant, qui ont encore, dans bien des cas de figure, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je ne veux pas trop vous charger, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Donc le conjoint, petit à petit, notamment s'il n'y a pas d'enfant, le conjoint, petit à petit, ça devient l'héritier principal. Et s'il n'y a ni enfant ni parent, le conjoint, il hérite de tout. Donc, je n'ai pas d'enfant avec mon épouse. Mes parents sont décédés, c'est mon conjoint qui héritera tout. Oui. Ouais, alors Pax avec testament. Donc, j'y viens dans deux secondes. Juste, je vous rappelle une chose, ce que j'ai écrit, le conjoint, donc en cas de mariage, le conjoint a de toute façon quand même un droit d'usage et d'habitation qui est viagé. Je me répète, il ne peut pas être mis dehors. Il a un droit d'usage et d'habitation qui est viagé. D'accord ? Donc, et sachant que le conjoint, on n'oublie pas que le conjoint, il est exonéré fiscalement, mais ça, je vous l'ai dit également. Sur le Pax, le fait de faire un Pax, quand on est paxé, on ne devient pas héritier. Le Pax, c'est d'abord pour savoir, en cas de divorce notamment, comment on répartit, comment on liquide le Pax et comment on répartit la propriété des biens. Pour être héritier, le partenaire paxé doit avoir en plus un testament en sa faveur. C'est-à-dire que je deviens héritier dans un Pax parce que mon conjoint a fait un testament. Mais le partenaire de Pax n'est pas naturellement héritier. Je signe un Pax avec ma partenaire ou mon partenaire, je fais ce que je veux. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si je n'ai pas fait de testament, il ne se passe rien, il n'est pas héritier de ma succession. Donc, il faut qu'il y ait testament. Je pense que la plupart du temps, pour les paxés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez connu. Assez connu, c'est pas non plus idiot de le rappeler. Hein. Un pax sans testament, tu n'es pas plus avancé. Hein. Donc, sur certains points, tu peux être avancé, mais bon. Mais tu auras quand même, de toute façon, même avec le testament, on aura toujours moins de droits en tant que partenaire paxé qu'en tant que conjoint survivant. Le Pax n'a pas la portée. Moi, j'ai rien contre le Pax, hein, c'est pas le sujet. Mais les droits du partenaire survivant sont moins importants que les droits du conjoint survivant. Et ben, il suffit de regarder ici, par exemple, j'ai mis que le partenaire survivant, il a un droit d'usage et d'habitation d'un an. Le conjoint, il peut pas être mis dehors. Il a un droit d'usage et d'habitation dans la résidence principale pendant un de sa vie, il peut pas être mis dehors. Le partenaire du Pax, il a un droit d'usage et d'habitation d'un an. Donc potentiellement, au bout d'un an, on pourrait mettre ça sur la table. On pourrait se mettre à discuter. Dans la vraie vie, personne ne va discuter. Parce que le partenaire de Pax, notamment s'il y a des enfants qui sont jeunes et ainsi de suite, personne ne va dire il faut sortir de la maison. Ben non, ça serait contre-productif pour les enfants. Donc ça ne vient pas sur le tapis. Mais n'empêche que ce droit d'usage et d'habitation, il est moins important pour un partenaire de Pax. Et souvent, on réfléchit sur le Pax par rapport à l'angle fiscal, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est toujours, moi j'ai un problème avec le fiscal, parce qu'on dit oui, mais le partenaire de Pax, si on a fait un testament, pas de problème, il est exonéré de droit. Oui, d'accord, il est exonéré. Comme un conjoint. Dans le cadre d'un mariage, le partenaire du Pax, il est exonéré. D'accord, il est bien exonéré de fiscalité. Par contre, avant de savoir combien il paye, moi je m'intéresse à savoir combien il a. Or, ce que je peux dire, c'est que le partenaire de Pax, sur le papier, il est susceptible d'avoir moins qu'un conjoint marié. Parce qu'en fait, les droits qui seront les siens, ils vont naître du testament. Le conjoint marié, il va recevoir, dans la succession, il va recevoir quelque chose, parce que c'est la loi qui le dit.
alors que le partenaire de Pax, il va recevoir quelque chose parce qu'un testament le dit. C'est pas la même chose. Est-ce que le testament a la même portée que la loi? Non. Donc il vaut mieux effectivement hériter en tant que conjoint, a priori, plutôt qu'en tant que partenaire de Pax. Même si, très honnêtement, hein, entre vivre en concubinage ou paxé, il n'y a pas photo. Hein. Concubin, c'est que dalle. Je ne passerai l'expression, mais c'est la réalité. Le concubin, il n'est rien au regard de la loi. Alors si, on peut toujours lui faire un testament. Belle idée. Je fais un testament au profit de mon concubin. Si je décède, il paye 60% de droits de succession. Donc, vous avez compris, c'est bon, c'est une patate chaude. Hein. Je repasse chez le banquier pour aller refaire un crédit pour réacheter la maison qui était déjà remboursée par l'assurance du prêt. Enfin, non, donc... Bon. Deux. Oui. Alors, le partenaire de Pax, il est exonéré de droit. Lui, paye rien. Comme le conjoint marié. Il est exonéré. C'est pour ça qu'en fait, tout le, enfin, beaucoup vont vers le Pax. Je pense que beaucoup ont compris qu'il faut un testament pour être héritier. S'il n'y a pas de testament, tu n'es pas héritier. Donc, de toute façon, tu ne payes rien parce que tu n'as rien. Bon, c'est vite fait. Mais par contre, si tu as un testament, tu deviens héritier et tu es exonéré de droit. Donc, en fait, beaucoup pensent au Pax par rapport au mariage en se disant... Au moins, on sera exonéré de droits à payer. Pour autant, il faut quand même réfléchir qu'a priori, les droits du partenaire sur la succession sont plus faibles. Les droits en termes de propriété des biens, bien sûr. Parce qu'en fait, il hérite parce qu'il a un testament, alors que le conjoint survivant, il hérite parce que c'est la loi qui le dit. Et j'ai fini.
Bah, très bien, juste à l'heure. Merci François, c'était intense. Hein. J'espère que vous avez appris au moins plein de choses. Est-ce qu'on a le temps de passer à quelques petites questions ou pas? Ouais. Bon, si vous avez des questions, une dernière question, c'est encore.
Oui. Oui. Je la répète. Donc effectivement, puisqu'on est usufruitier à la mort du défunt. La donation d'un vivant ne sert à rien. Alors, elle va servir quand même en présence d'enfants d'un premier lit. Parce que quand monsieur qui est décédé avait des enfants d'un premier lit, le conjoint survivant ne peut pas être usufruitier. Il est obligé de prendre de la pleine propriété. Monsieur avait un enfant d'un premier lit. Il décède. Donc, madame dit, je vais prendre l'usufruit sur la succession de monsieur. Pas possible. Avec des enfants d'un premier lit, madame ne peut pas être usufruitière. Sauf si elle a une donation d'un vivant. Et là, la donation d'un vivant, tout d'un coup, elle prend tout son intérêt. Et la donation d'un vivant, deuxième intérêt, et c'est pas forcément toujours ce qui est vu chez les plus jeunes, la donation d'un vivant, elle donne plus de droits. Alors, je vous donne la règle, mais vous n'allez pas la retenir, c'est pas le sujet, mais avec une donation d'un vivant, je peux prendre un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit. En clair, j'ai le droit de prendre plus de droits sur la succession du défunt. Donc la donation d'un vivant, elle sert aussi dans tous les cas de figure là-dessus, c'est d'avoir plus de droits sur la succession du défunt. Quand on a 80, 85, 90 ans, il n'y a pas d'utilité. Par contre, un jeune couple, monsieur décède à 40 ans, ils sont à la mi-temps. Madame, elle a 40 ans aussi, et là encore, l'autre moitié à faire. On peut peut-être quand même se dire que madame, elle va vouloir avoir un maximum de droits sur la succession de son mari, parce qu'elle a encore 40, 45 ans, 50 ans à tirer. Donc, eh bien, la donation au dernier vivant, dans ces cas-là, elle sert. Parce que... Madame pourra, grâce à la donation d'un vivant, prendre plus de droits sur la succession et ça lui fera un levier plus important pour rebondir sur sa vie future. Et la donation d'un vivant, souvent, on ne s'y intéresse pas quand on est plus jeune, alors qu'il y a un vrai sujet, me semble-t-il.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, bah, pas du tout. Voilà. Bah, ils ont tout compris. Une dernière.
Parce que quand on sépare, c'est plus simple à casser.
C'est compliqué souvent la séparation, c'est quand même les droits de garde des enfants, le partage des biens. Mais...
Je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est moins compliqué. Alors, non mais a priori, de façon la dissolution, la liquidation d'un Pax, elle est juridiquement plus simple que la dissolution d'un mariage, juridiquement. Après, sur les divorces aujourd'hui, les procédures se sont en théorie allégées. Attention, ça dépend d'où on parle. Hein. Vous divorcez au tribunal de Nantes, il y a quelques temps encore, ça mettait un petit peu de temps. C'était pas les mêmes délais pour divorcer à Nantes que divorcer à Angers, par exemple. J'ai quelques cas de ma connaissance. Quand ça prend des mois et des mois, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, les divorces, notamment par consentement mutuel, peuvent être exonérés, me semble-t-il, je suis pas un spécialiste du sujet, mais peuvent être exonérés, me semble-t-il, du juge. Donc on a fait en sorte que les divorces se passent un petit peu mieux. Mais d'une manière générale, c'était plus simple, historiquement, de liquider un pax. Après, maintenant, quand les deux anciens amoureux sont plus du tout amoureux et que ça se passe mal entre eux, de toute façon, ça se passera mal dans tous les cas de figure, pax ou pas pax. D'accord. Mais si on va dire que ça se passe pas trop mal, a priori, un pax se liquide plus facilement qu'une union matrimoniale. De protection pour le conjoint survivant. Ça, je peux pas dire le contraire. Je suis pas un pro-mariage ou pro-pax, c'est pas mon sujet. Par contre, sur le papier, t'as plus de droits parce que la loi te le donne plutôt qu'un testament dans le cadre du pax. Un testament, c'est toujours limitatif. Toujours. Tout à fait. comme une donation au dernier vivant. Comme une donation au dernier vivant. Alors, je ne vais pas donner de mauvaise idée. À part quand elle est mise dans le contrat de mariage, une donation au dernier vivant peut être évoquée par l'un des deux époux. Sans que l'autre soit au courant. Bon, je vous la, c'est gratuit, je vous la donne comme ça. Okay. Pardon ? Alors, sur la communauté universelle, vaste débat. Parce que la communauté universelle, en général, il y a attribution intégrale. On fait ce qu'on appelle des communautés universelles. La communauté universelle, en tant que telle, n'est pas tellement un problème. C'est de tout mettre dans la communauté. Les biens propres, les trucs... On met tout dans un seul bloc, qui est la communauté. Et ensuite, en général, on dit qu'il y a une attribution intégrale. C'est-à-dire que 100% est donné au conjoint survivant. Il n'y a donc pas d'ouverture de succession au premier décès. C'est ça, hein, une communauté universelle avec attribution intégrale. C'est le meilleur mode de protection du conjoint survivant. Évidemment, il a tout. Est-ce que c'est une très bonne idée au premier décès, en privant les abattements des enfants? Chacun est maître. De quoi? Ouais, mais honnêtement, la communauté universelle avec attribution intégrale, alors peut-être que certains sont concernés parmi vous, je ne dis pas que c'est pas bien, mais il faut que ça réponde, il faut bien être conscient des conséquences fiscales que ça va avoir au premier décès, parce que les enfants n'ont pas d'abattement. Alors après, on peut très bien dire, quand on est fâché avec un de ses enfants, enfin fâché ou qu'on s'entend pas très bien ou qu'on voit bien qu'un des enfants peut nous poser problème, moi ça me pose pas de souci d'adopter la communauté universelle. C'est un choix des époux de dire bon, hey, on veut pas d'emmerde avec un de nos enfants au premier décès, on laisse tout au second, au conjoint survivant, pardon. Pas de souci. S'il n'y a pas d'autre motivation que ça, il y a plein d'autres solutions pour se protéger que d'aller chercher la communauté universelle. Alors, non, parce qu'au décès de madame, au décès du conjoint survivant, ils seront héritiers de leur maman. Mais sauf que s'il en reste, ça, là, vous abordez un thème que j'ai vu parfois, qui est le vieillissement du conjoint survivant. Quand on laisse tous les droits au conjoint survivant, il faut avoir quand même confiance que ça yoyote pas trop là-haut. Hein, parce que effectivement, quand tu lui laisses tous les droits, qu'est-ce qui se passe? Il peut partir à Las Vegas avec un Jules, et là, il n'y a plus rien au deuxième décès. Mais bon, on est peut-être un petit peu dans la fiction, mais ça pourrait arriver. Allez. Oui, c'est ça. Non, mais c'est oui, par rapport à la. Non, alors, oui, mais c'est deux problématiques différentes. Les gens qui font une communauté universelle, ils font pas de donation. Si j'adopte une communauté universelle, c'est pour me protéger au maximum. Donc, évidemment, derrière, les donations, on les oublie un peu, hein, en général, dans ces cas-là.
Bon, mais merci à vous. Merci François Leu. Je rappelle, vous êtes expert en gestion de patrimoine, donc chez Altea Patrimoine. Merci pour toutes ces explications. On se retrouve donc dans 30 minutes maintenant pour la deuxième table ronde. où on parlera de location à l'année. On va parler du bail, du loyer, des garanties, de la fiscalité. Enfin, voilà, plein d'infos. Une sorte de boîte à outils, en fait, si vous voulez louer à l'année ou si vous louez à la saison, que vous voulez louer finalement à l'année. Enfin, voilà, il y aura plein d'informations. On en parlera tout à l'heure, donc, avec la mairie de Lille-Dieu, bien sûr, avec les associations Adil, Élise et Solia. Donc, c'est à 18h30. Merci à tous.